Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Daily Movies, le journal de bord de ma cinéphilie spéciale Champs-Élysées Film Festival 2023, jour 3. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de deux films, un film de la compétition américaine et un film de la compétition française. Et donc, on va tout de suite commencer par le film de la compétition américaine, à savoir Mutt de Vuk Lungelov-Klote.
Do you mind?
I've seen you naked before.
Yeah, but not.
I can turn around if you want.
Yeah, could you?
Really?
Yes, please.
Au cours d'une seule journée, trois personnes du passé de Fenia avant sa transition de femme à homme refont surface dans sa vie, son père étranger, son ex-petite amie et sa demi-sœur de 13 ans. Alors, je n'aurais pas mieux formulé ce pitch. Vraiment, je trouve que c'est un très bon résumé. Le film sort en salle en France, lui sort en salle le 9 août, donc cet été. Voilà, et s'appelle 24 heures à New York. Je trouve ça un peu dommage d'avoir changé le titre parce que Mutt, le réalisateur en plus nous a expliqué la signification, je sais plus, honte à moi. Mais je trouve ça quand même plus significatif parce que oui, en soi, ça dure 24 heures et ça se passe à New York, mais ce film, c'est tellement plus. Voilà, je vais y aller cash, c'est mon coup de cœur de la journée. Voilà, c'est le film que j'ai aimé aujourd'hui qui m'a transporté, qui m'a touché, qui est aussi nécessaire voilà, dans sa démarche. Voilà, j'ai pu échanger un peu avec le réalisateur après coup et c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Voilà, d'ailleurs, enfin, bref, trop gentil vraiment. Et en fait, il a expliqué pendant le Q&A et il a vraiment mis ça au cœur de l'entretien. Et c'était aussi voilà, ça qui rendait la chose aussi intéressante. C'est qu'en fait, c'est lui-même un homme trans et que ce film-là, c'est le film dont il avait besoin. C'est le film dont, voilà, qu'il avait envie de voir, qu'il avait besoin de voir. Et donc, en fait, lui a vraiment voilà, mis son âme dans ce film-là, a mis son cœur pour vraiment faire un film qui voilà, puisse être un exemple en termes de représentation, qui puisse être un exemple, il nous a dit, hein, voilà, pour les personnes transgenres, parce que bon, le film a été montré à Sundance et à Berlin, quand même, avant de venir au Champs-Élysées Film Festival, donc c'est pas rien, voilà. On parle quand même d'un des plus gros, si c'était le plus gros, bon, il y a Toronto quand même aux États-Unis, mais bref, un des plus gros festivals américains et un des trois grands festivals de cinéma avec Venise et Cannes, hein. Donc voilà, c'est quand même des festivals qui sont assez exceptionnels. Et en fait, ouais, en termes de représentation, voilà, c'est quelque chose qui est assez rare en fait, voilà, de voir justement un homme trans qui fait un film avec un acteur trans. Voilà, c'est vrai que la plupart du temps, même si c'est un sujet voilà qui commence à arriver en fait au cinéma et qui est pas comment dire, qui est assez nouveau en fait, qui est pas totalement installé. Donc du coup, on a vraiment bah, pour l'instant des méthodes qui existent déjà, qui sont appliquées, c'est-à-dire de prendre un homme cisgenre voilà pour jouer un homme trans. Voilà, c'est quelque chose qui se fait souvent. Et en soi, à titre personnel, je suis pas opposé à ça. Voilà, je pense que, bon, après, c'est dans le propre de l'acteur de pouvoir tout jouer. Mais il est vrai que ça fait toujours du bien, en fait, voilà, de voir des représentations. Et en fait, surtout vu comment joue, je vais chercher ce nom, honte à moi, j'ai encore oublié. Vu comment joue Lio Meyel, voilà, qui joue le rôle de Fenia, pour le coup, je pense que c'est vraiment. Déjà, en plus d'être une bonne idée en termes de représentation, et enfin voilà, je trouve ça exemplaire que le réalisateur ait autant poussé voilà, pour trouver un acteur trans. Et voilà, en plus de cette représentation-là, c'est surtout un très bon acteur, en fait, voilà, qui vraiment joue très bien dans ce film, qui incarne parfaitement ce personnage. Alors j'imagine, bien sûr, bien évidemment, qu'il y met beaucoup de lui, comme le réalisateur a mis beaucoup de lui. Voilà, mais pour le coup, ça reste quand même un très bon acteur qui a vraiment parfaitement compris son personnage. Et c'est vrai que j'en parlerai après quand je parlerai des relations entre personnages, mais il n'a pas un caractère facile. Voilà, il n'a pas un caractère facile. Et parfois, c'est vrai que c'est un personnage qui peut être assez rentre dedans en fait, et ça l'acteur l'a parfaitement compris, voilà. Et pour le coup, je sais pas si c'est son comportement dans la vraie vie, il était pas là, je le connais pas, mais ouais, c'est vrai que il a un caractère qui parfois peut être un peu fort, et je trouve que ça c'est très bien réussi. Donc en fait, oui, le réalisateur nous a dit des choses très touchantes, comme quoi des personnes trans venaient le voir à la fin des projections, voilà, en larmes, en le serrant dans ses bras et tout. Enfin bref, c'est un film qui est vraiment un effet en fait qui est très important. Beaucoup de ces personnes lui ont dit j'ai très hâte de pouvoir le montrer à ma famille, merci pour ça, etc. Donc pour vous dire à quel point en termes de représentation c'est un film qui fait du bien, c'est un film qui est réussi, voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est que OK pour les personnes de la communauté. Voilà, c'est un film qui est très bien, qui est nécessaire, etc. Mais pour des gens dont je fais partie, hein, qui ne sont pas trans et qui sont même pas forcément dans la communauté LGBTQ+, c'est pas un film dans lequel on ne se retrouve pas, en fait. Voilà, c'est un film qui parle à tout le monde, qui justement évoque la transidentité, qui souhaite justement l'aborder, voilà, de manière un peu universelle. Et en fait, ça marche très bien, voilà, et c'est ce que disait aussi le réalisateur, on le ressent vachement dans le film. Ok, il y a des intrigues, et bien évidemment, la transidentité est au cœur du film, parce que c'est le sujet, parce que voilà, c'est l'histoire du réalisateur, parce que c'est l'histoire de l'acteur, etc. Mais c'est quand même un film qui, avant tout, reste très humain. En fait, le réalisateur a dit, j'ai toujours voulu montrer le personnage de Fenia comme un être humain avant tout. Alors, bien évidemment, il y a des choses qui se passent par rapport à sa transidentité, je pense à cette scène à la banque, je pense à des scènes avec son père, mais ça, on en reparlera. Mais donc oui, effectivement, il y a des choses qui sont liées à sa transidentité, et ça, c'est indéniable, voilà, parce que, comme je dis, c'est le cœur du film. Mais c'est avant tout un film très humain, en fait. Voilà, c'est juste que, comme le dit si bien le réalisateur, en 24 heures, dans notre vie, il se passe beaucoup de choses, voilà. Et donc, moi, je trouve ça, en fait, tellement fascinant. C'est des petites choses de rien du tout, en fait, qui peuvent paraître des choses banales, hein, du quotidien, etc. Mais qui pour le coup, en fait, sont, c'est des choses qui font partie de la vie, mais moi, je trouve ça très intéressant. C'est pour ça que j'avais beaucoup aimé le livre de Annie Ernaux qui s'appelle Le Journal du Dehors, voilà, où juste vraiment elle raconte de quand elle sortait les choses un peu qui retenaient son attention. C'était des choses qui pouvaient être très banales, mais moi, c'est vraiment un procédé qui marque beaucoup, en fait, justement, de s'intéresser à ces choses-là très banales. Et en soi, la journée de Fenia, pour moi, elle n'a rien de banal. Parce qu'il est vraiment dans un rush permanent, il est stressé, voilà, et on va commencer à attaquer, pour moi, ce qui est vraiment le mieux réussi dans le film, c'est-à-dire le relationnel. Il est stressé parce qu'il doit aller chercher son père à l'aéroport, et qu'en fait, c'est la première fois qu'il le voit depuis sa transition, tout simplement, donc il y a une raison pour qu'il soit aussi stressé, et quand je vous dis qu'il a un caractère qui est plutôt rentre-dedans, voilà, c'était aussi ce stress-là qui se manifestait, clairement, et je trouve que ça, c'est parfaitement incarné par l'acteur, et pour le coup, oui, c'est quelque chose qui est assez fort, en fait, parce qu'il y a vraiment tout type de réaction, je trouve, dans ces trois personnages, dans son père, dans son ex-petite amie et dans sa demi-sœur. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment différents types de réactions. Son père est vraiment... Bon, il n'est pas au fait sur les questions, voilà, il est un peu vieux jeu, mais sans non plus être dans le rejet total, etc., même s'il y a des scènes qui sont vraiment assez compliquées à regarder, parce qu'effectivement, voilà, il lui parle, en fait, comme si c'était un choix, voilà, d'être trans, comme si c'est ce qu'il lui dit à un moment, mais tu crois que je me suis réveillé en me disant, tiens, je vais être trans. Non, c'est pas un choix, en fait, c'est pas un choix, c'est une nécessité. Voilà, c'est juste que c'est comme ça, en fait. Et encore, je sais pas si on peut parler de nécessité, c'est juste, c'est comme ça, c'est naturel, bref. Donc effectivement, ouais, dans ce rapport-là avec le père, en fait, on sent qu'il en a peur, on sent qu'il est un peu anxieux à l'idée de retrouver son père, parce qu'il ne l'a pas vu depuis, voilà, mais en même temps, il y a des scènes très touchantes entre les deux, voilà, et pour le coup, je pense notamment aux scènes de fin, etc., et c'est vraiment un père qui... On sent que c'est bizarre parce qu'il est un peu dans la nostalgie, en fait, comme si son fils était une autre personne, ce qui fondamentalement n'est pas le cas. Mais voilà, donc on sent qu'il est entre ce mix de nostalgie, mais en même temps, il y a son amour de père qui l'emporte. Voilà, et donc effectivement, il dit des choses qui... il ne faut pas dire ça, vraiment. Et voilà, qui ne sont pas forcément acceptables. Et il a beaucoup de maladresse aussi, mais voilà, quand même, on sent que... Et puis de toute façon, dans la finalité, bon, je dis rien, mais bref, voilà. On sent qu'il met quand même du sien, et c'est quand même assez positif, et je pense que voilà, ça peut aider beaucoup de gens à se faire accepter, notamment par leur famille, qui c'est compliqué, voilà, qui peuvent ne pas être ouvertes d'esprit, voilà, malheureusement. Et en fait, la version encore plus poussée de ça, c'est sa mère, en fait, qu'on aperçoit vraiment l'espace d'un plan, voilà, qui, elle, l'a carrément chassé de la maison, ne veut plus le voir, et raconte à tout le monde que c'est lui qui est parti, etc. et tout. Donc on a vraiment cette version-là qui est assez extrême, enfin pas extrême, mais enfin de réaction, en tout cas, qui voilà, pour le coup, oui, que moi je qualifie d'extrême. Et en fait, à l'inverse, on a la demi-sœur, elle est hyper ouverte, en fait, compréhensive. Il y a une scène où Fenia finit par lui dire, mais est-ce que tu sais ce que c'est que la transidentité? Et sa demi-sœur répond, Bah oui, je suis pas stupide, enfin je sais, j'ai même un ami trans, voilà quoi. Et en fait, elle, bah, elle s'en fout quoi, enfin elle est dans l'acceptation, etc. Et elle veut juste bah, être avec son frère en fait, tout simplement. Et voilà, et passer une journée avec lui, etc. Et donc être dans ces 24 heures en fait. Et je pense que c'est aussi une figure un peu rassurante pour Fenia qui, voilà, on le sent bien que qu'il est très attaché en fait, voilà, à sa sœur. Et voilà qu'en fait, c'est quand même bon une personne qui vient du même foyer que sa mère qui est donc la personne qui réagit le plus violemment donc voilà le fait qu'elle soit autant en acceptation je pense que voilà on ressent bien que c'est vraiment la relation la plus je dirais pas saine mais en tout cas qui où il se retrouve le mieux par contre la relation et je trouve que c'est la plus intéressante du film parce que c'est la relation où Fenia projette le plus d'attentes c'est la relation avec son ex-petite amie qui recroise pardon et donc ça c'est au tout début hein, donc c'est pas vraiment du spoil mais ils finissent par recoucher ensemble et donc forcément à partir de là il y a un petit engrenage qui se crée parce que enfin voilà c'est assez terrible parce que lui en fait a l'impression d'être absolument manipulé voilà parce que pour le coup bah, la rupture a été dure pour lui voilà ça lui a fait beaucoup de mal et en fait lui a l'impression d'être bah, totalement manipulé en fait et pour le coup bah Fenia projette énormément de choses en fait, c'est-à-dire que on sent que ça a aussi été dur pour lui, voilà, que comme je l'ai dit, c'est juste que bon bah c'est qui il est en fait, on peut pas renier qui on est en fait, il le dit à un moment dans une discussion, mais tu crois que moi ça me plaisait d'être ta copine, voilà, c'était pas qui il était, donc il pouvait pas rester comme ça à renier son identité, c'est pas possible, et du coup on sent quand même que en fait bah, abandonner cette relation, ça a été un énorme sacrifice. Et aussi, voilà, c'est une manière de dire dans la subtilité que, effectivement, bah, les personnes qui entament leur transition, c'est pas un chemin qui est facile. Voilà, et donc, c'est voilà, une manière aussi assez subtile de dire ça. Et en fait, il y a une scène de dispute qui est assez révélateur. Et ce qui est intéressant, c'est que je trouve que, bon, bah, bien évidemment, son ex qui s'appelle John, je crois, bref, va trop loin dans ses propos. Mais il y a quand même une part de vérité dans ce qu'il dit avant qu'il s'emporte et qu'il aille trop loin. Enfin, après, est-ce que c'est l'emportement ou pas, je sais pas, mais bref. Et Fenia aussi dit des choses voilà, qui sont très vraies. Donc, en fait, c'est ça. Je trouve que y a une merveilleuse complexité dans l'écriture, en fait, et dans les relations. Et on n'est pas justement dans quelque chose de manichéen. Pour moi, on est vraiment dans quelque chose qui voilà, en fait, on n'est pas dans quelque chose qui serait soit misérabiliste, voilà, en disant regardez comment c'est dur, soit qui serait oui manichéen en mode bah il y a je sais pas peut-être quelque chose qui dirait que bon bah les trans sont un peu les personnes entre guillemets gentilles et que les cis seraient les méchants entre guillemets je mets des gros guillemets bien sûr voilà mais moi j'aime pas du tout le manichéisme mais bref c'est pour ça que je suis content que le film tombe pas dedans et en fait bah justement c'est comme le disait le réalisateur c'est un film qui est avant tout profondément humain voilà et pour le coup ça se ressent en fait voilà ça se ressent dans cette absence de manichéisme. Et cette coexistence, en fait, voilà, tout simplement. Et voilà, c'est juste que bah, les trans, bah, c'est leur identité, les cis, c'est leur identité. Voilà, il n'y a pas forcément de manichéisme. Alors, bien évidemment, bon, c'est les cis qui n'acceptent pas les trans, hein, voilà, bon, c'est le cas de le dire. Mais sinon, effectivement, je vois pas de manichéisme dans ce film, et ça fait du bien. Donc voilà, c'est probablement une des meilleures représentations voilà, que j'ai pu voir sur le sujet. Voilà, je pense que c'est un film qui est encore une fois comme Another Body hier d'utilité publique, et j'espère qu'il sera énormément vu. Voilà, et je tiens quand même à remercier, je pense, voilà, le réalisateur qui n'écoute pas ça, mais voilà, qui ne comprend pas forcément le français non plus. Mais bref, j'ai pu échanger un peu avec lui, etc. Et pour le coup, voilà, c'est quelqu'un d'assez adorable. Donc voilà, je tiens à le remercier quand même. Allez, on va passer à mon premier visionnage de la compétition long métrage français, puisqu'on va parler de Il pleut dans la maison de Paloma Cermondaï.
T'es encore une gamine, perdée.
Comment ça, je suis une gamine?
T'es une gamine? Qu'est-ce que tu vas faire? Une femme de ménage toute ta vie? C'est pas comme ça que j'imagine ma copine alors que moi je serai à l'école l'année prochaine.
T'espères rencontrer une petite bourge là-bas?
Maman?
Tu la pardonneras.
Tu.
Sous un soleil caniculaire, Purdey, 17 ans, et son frère Mackenzie, 15 ans, sont livrés à eux-mêmes et tentent de se débrouiller seuls. Alors que Purdey fait des ménages dans un complexe hôtelier, Mackenzie se fait un peu d'argent en volant des touristes. Alors, c'est sous-entendu, bien évidemment, mais on a une absence de leur mère, en fait, voilà, qui... du jour au lendemain, s'en va littéralement de la maison sans donner de nouvelles et les laisse livrer à eux-mêmes. Voilà, donc ils doivent se débrouiller en fait pour réussir à survivre, à subsister. Et donc voilà, c'est un film qui donc effectivement parle de ça, parle de personnes qui vivent un peu, je sais pas si c'est dans le besoin, mais en tout cas bon, c'est sûr qu'ils ont pas un niveau de vie qui est très confortable. Ils ont une maison, comme le titre l'indique, où voilà, qui est assez insalubre, où la pluie rentre. Bon bref, la maison est pas forcément au top de sa forme, ils n'ont pas non plus beaucoup d'économies, enfin bref, ils doivent vraiment apprendre à vivre par eux-mêmes, subsister par eux-mêmes. Et donc on a l'aîné Purdey qui pour le coup est très qui pour le coup entre guillemets responsable, voilà, on le sent vraiment, elle a une maturité qui se dégage qui est assez impressionnante. Elle prend un travail, elle cherche un studio en fait où son frère et elle pourraient aller, voilà, elle prend les choses en main, elle est d'une maturité assez folle. Et je trouve qu'il y a une scène d'ailleurs qui est assez injuste en fait avec son petit ami ou qui lui fait un discours où voilà, en gros, il lui dit que mais faut pas qu'elle fasse ça parce que machin, et en fait, il lui donne des leçons. Ok, mais toi, tu as de l'argent, toi, c'est facile de dire ça. Et donc, en fait, voilà, cette scène, je la trouve assez injuste. Et en fait, c'est un personnage quand même qui m'a vraiment beaucoup touché, auquel je me suis beaucoup attaché. Pas forcément parce que ça faisait quoi, une expérience personnelle ou quoi, mais juste voilà, je le trouve très bien construit. Et j'avoue avoir moins accroché au personnage de Mackenzie, voilà, je sais pas pourquoi, je moins connecté avec lui, peut-être, je sais pas, dans l'écriture, ça me correspondait moins. Voilà, et bref, dans l'ensemble, j'ai été un petit peu déçu par ce film. Voilà, en termes d'attente, j'avoue que les deux, je les plaçais un peu au même niveau et qu'au final, j'ai bien plus préféré Mutt. Je dis pas que c'est mauvais, il pleut dans la maison, loin de là. En fait, c'est même assez frustrant. C'est-à-dire que je vois vraiment tout ce que la réalisatrice veut faire, je vois tout ce qu'elle y insuffle, je vois tout ce qu'elle y met, je vois tout ce qu'elle y réussit à faire. Et pour autant, je suis hermétique. Ce qui se passe, voilà, malheureusement, c'est assez terrible. J'ai jamais réussi à rentrer dans le film. Il y a des scènes qui sont très bien. Voilà, il y a des scènes, je sais pas si je pourrais dire qui m'ont provoqué des choses, mais où j'ai réussi à avoir une petite implication dedans. Mais sinon, dans l'ensemble, je suis resté très hermétique au film, en fait, et c'est très frustrant, d'avoir cette sensation-là, parce que pour le coup, d'un regard extérieur, je vois ce qui est évoqué dans le film, et c'est des thèmes qui sont très intéressants. C'est évoqué, voilà, d'une manière qui est vraiment pas mal, qui, pour le coup, tombe pas non plus dans un misérabilisme trop important. Voilà, donc ça c'est toujours appréciable. Maintenant, comme j'ai dit, voilà, je suis resté très hermétique au film et je pense que ça vient du fait que la réalisatrice aussi choisit beaucoup de filmer l'ennui, voilà, sous cette canicule, etc. Et en fait, c'est compliqué de filmer l'ennui. C'est compliqué et c'est assez, risqué. Parce que, pour le coup, on peut facilement passer de filmer l'ennui à tomber dans l'ennui. Et en soi, la réalisatrice a dit quelque chose d'assez juste, comme quoi elle voulait filmer l'ennui sur un film assez court, voilà, comme... Enfin, où il n'y avait pas besoin de l'étendre pour exagérer l'ennui, certes, et je trouve la démarche admirable. Néanmoins, je trouve que malheureusement, l'ennui n'est pas forcément bien représenté dans ce film, tout simplement parce qu'en fait, voilà, on passe justement de filmer l'ennui à ressentir de l'ennui. Et donc, en soi, moi, les films, voilà, il y a des réalisatrices, je pense à Sofia Coppola qui est spécialisée dans l'ennui. Voilà, c'est vrai que j'ai pas vu beaucoup de ses films, mais par exemple, Un Virgin Suicide, c'est un film que je trouve absolument brillant. Voilà, c'est plus profond que l'ennui, bien évidemment, mais ça en fait partie. Et en fait, voilà, moi, l'ennui au cinéma, mais c'est quelque chose qui peut me passionner. Je pense notamment à Ghost Story. Tout le monde a craché sur la scène de la tarte. Moi je l'adore, c'est une de mes scènes préférées et en soi c'est pas de l'ennui, c'est du deuil, c'est autre chose, mais bref, je veux dire, c'est pas parce que vous filmez quelque chose qui sur le papier n'est pas intéressant que ça ne peut pas devenir intéressant. La scène de la tarte, je suis d'accord que sur le papier, avoir quelqu'un qui mange une tarte pendant 4 minutes, c'est pas intéressant, mais pourtant René Mara, tout ce qu'elle arrive à faire passer à travers ça, voilà, pour moi c'est ça qui le rend intéressant. Et donc en fait il y a toujours moyen de bien filmer l'ennui, il y a toujours moyen d'être je sais pas comment expliquer ça, mais voilà, d'être dans le juste en fait en filmant l'ennui et de pas tomber dans l'ennui, de pas essayer d'amener le... Enfin, je ne dis pas qu'elle essaye d'amener le spectateur vers l'ennui, mais malgré tout, c'est ce qui se passe. Voilà, moi, ça m'a amené plus vers l'ennui que vers l'appréciation de l'ennui, ce qui est fort dommage. Et je pense que c'est pour ça que je suis resté aussi hermétique au film, malheureusement, même si, encore une fois, hein, je le vois bien. Surtout que c'est un film qui est quand même assez honorable, qui défend des choses qui que j'ai vues. Hein, et d'ailleurs, dans le Q&A, la réalisatrice en a parlé, etc. Et c'est des choses que j'avais vues, en fait. Mais je n'ai pas réussi à connecter à ces choses qu'elle essayait de me raconter. Et pour moi, c'est quand même un gros problème sur un film. Voilà, après, comme je le dis, du coup, c'est embêtant parce que c'est pas un mauvais film. Mais pour le coup, j'ai l'impression de ne pas l'avoir apprécié à sa juste valeur. Et en fait, aujourd'hui, on était sur deux premiers films, hein, que ce soit Mutt ou celui-ci. Enfin, lui, c'est une première fiction parce qu'elle avait déjà fait un documentaire. Et en fait, là, oui, il y a aussi une frontière qui est très proche du documentaire. Voilà, quand même, c'est un frère et une sœur qui, apparemment, selon leur dire, se retrouvent vachement dans l'histoire du film, qui ont gardé leur prénom, qui donc, bref. Il y a quand même une grosse part de réalité. Je crois que Purdey, c'est la nièce de la réalisatrice, c'est ce qu'elle nous a dit. Bref, il y a vraiment une part de réalité qui est très importante. Et c'est un premier film, donc on sent que par moment il y a peut-être des manques de budget. On sent que c'était une petite production, etc. Et même à l'instar de Mutt, en fait, ce que le réalisateur nous a dit, c'est qu'il filmait en fait dans les rues de New York. À New York, il n'y a pas forcément besoin d'autorisation, mais donc c'est des films qui sont faits, j'ai pas envie de dire à l'arrache, mais où on essaie de se débrouiller avec peu de moyens. Donc en fait, c'est le genre de film qu'on a envie d'aimer. Malheureusement, je peux pas forcément passer à côté de mon ressenti et de mon avis. De ce que je vous ai raconté, en fait, du fait que je trouve que un des problèmes, c'est que c'est la gestion de l'ennui, en fait, dans le film. J'aurais adoré aimer, mais plus que tout, et en fait, pour le coup, c'est pas le cas, et je suis vachement embêté, mais pour le coup, je peux pas forcément changer mon avis, malheureusement. C'est ce que j'ai ressenti. J'aurais bien voulu aimer, j'aurais bien voulu défendre ce film, surtout que vous me connaissez, j'adore défendre le cinéma français, c'est un premier film, c'est typiquement le genre de film que je voudrais défendre, mais malheureusement, pour le coup, c'est pas forcément le cas, et j'en suis premier désolé. Allez, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Donc aujourd'hui, on a eu un très 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 gros coup de cœur, je pense que, pour l'instant, après, j'ai pas vu beaucoup de films, mais en soi, oui, même Another Body, c'était très bien, mais je pense que je mets quand même Mutt au-dessus dans mon préféré dans la compétition américaine. Je vous tiendrai au courant, sachant que les films américains, je revois pas avant dimanche. Là, je vais enchaîner les films français. D'ailleurs, je vais quasiment finir la sélection. Je la finis dimanche, mais bref, j'en vois quand même dans les deux prochains jours, j'en vois 4, donc ce qui fait beaucoup. Et donc demain, nous aurons La Sirène en compétition français. Ensuite, j'irai faire la séance des courts-métrages 1, des courts-métrages français, le programme 1, parce que on a le court-métrage de Raphaël Quenard, qui est un acteur que j'adore et j'ai trop hâte de voir son court-métrage. Et enfin, on finira par une de mes plus grosses attentes dans cette sélection des longs-métrages français, c'est La Bête dans la Jungle. C'est ma plus grosse attente avec Vincent Doit Mourir. Donc on verra bien ce qui se passe, mais en tout cas, j'ai très 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 hâte de voir ce film et très très hâte de vous en parler. Donc si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et en parler autour de vous. Et pour ma part, je vous dis à demain pour un nouveau débrief.